Dans cette étude, nous allons parler plus personnellement de nous-mêmes, de vous, puisque nous arrivons à la partie de l'étude qui concerne l'accomplissement du dessein de Dieu dans chaque vie individuelle. Donc ce sera le sujet d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'intègre soi-même dans ce dessein dont nous avons vu le déroulement depuis le début de la Bible jusqu'à nos jours. Nous commençons donc sur le titre « La fin des temps ». Dans la vie chrétienne, c'est par la foi que nous trouvons le chemin qui mène à la vraie vie, et c'est par l'espérance que nous restons et que nous demeurons sur ce chemin. En quoi donc consiste l'espérance chrétienne? Quel est l'aboutissement du dessein de Dieu pour chacun d'entre nous? Les deux derniers actes du dessein de Dieu se rapportent encore et toujours à ce dont nous avons parlé souvent, au règne de Christ et à la rédemption. Et en même temps, à deux questions fondamentales que les hommes se posent, la question de la mort et la question de la justice, ou plutôt de l'injustice. La mort est la seule expérience où nous laissons derrière nous tout ce que nous avons et nous emportons avec nous tout ce que nous sommes. Woody Allen, que vous connaissez tous, sans doute, a dit qu'il a dit « Je n'ai pas peur de mourir, seulement je ne veux pas être là quand cela m'arrive. » Ou comme j'ai trouvé dans le journal l'autre jour, le journal d'Info Matin, dans cette forme-là, vous voyez, il est marqué « La vie est une sorte de long examen avant la mort. » Et malheureusement, tout le monde est reçu. Eh bien, à des conjonctures différentes de notre vie, quand nous sommes dans des moments les plus lucides, c'est là que nous nous rendons compte qu'un jour, nous allons vraiment mourir. La deuxième question est celle de la justice. Quand on réfléchit, quand on pense à toutes les injustices qu'il y a eu dans le monde, du début jusqu'à aujourd'hui, quand on les additionne, tous ces crimes restés impunis, tous les torts non redressés à travers les siècles, il y en a plutôt à se décourager. L'ardoise est énorme. Justice sera-t-elle faite un jour? La question que nous nous posons tous, les chrétiens comme les non-chrétiens, pose cette question. Est-ce que la justice sera faite? Et est-ce que la mort n'élimine pas la possibilité que la justice soit faite? L'espérance chrétienne se résume dans le Nouveau Testament dans un seul mot, c'est le mot de la gloire, la gloire. Nous allons voir deux des nombreuses apparitions de ce terme. La première, en 1 Pierre 5, verset 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ. » C'est donc la gloire de Christ qui résume l'espérance chrétienne. Quand on pense à la gloire qui nous attend après ce monde, il faut penser à la gloire de Christ. Il ne faut pas penser à cette béatitude béatifique qui est le sujet de légendes populaires, les anges assis sur les nuages en train de jouer à la harpe, ou de la harpe. Il faut penser à un état céleste, une condition céleste qui est d'une dignité glorieuse et qui est d'une gloire digne de la présence de Dieu et de tous ses saints serviteurs qui sont les anges.
Bon, j'aimerais vous lire un passage en Hébreux 2:10 que vous avez là, page 29. Il convenait en effet à celui qui est par qui tout existe et qui voulait conduire à la gloire une multitude de fils de mener à l'accomplissement par des souffrances l'initiateur de le salut. Et dans le titre, là j'ai souligné dans mes notes une multitude de fils. Dans ce titre de fils, nous retrouvons cette idée d'héritage, quelque chose qu'on attend. Qui est notre but final, si vous voulez, l'héritage ou la vie éternelle. Mon héritage ne consiste pas tellement en quelque chose que nous possédons, cet héritage ici dont je parle ici. C'est plutôt quelque chose que nous deviendrons. Nous allons devenir quelque chose. Et ce que nous deviendrons, nous ne le savons pas encore avec exactitude. En effet, l'apôtre Paul, en Romains chapitre 8, verset 19, je ne crois pas que vous l'avez là, a dit que nous attendons avec impatience la révélation des fils de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous allons être un jour? 1 Jean 3, verset 2, « Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons donc, comme Charles a dit, dans sa condition de gloire, ou dans sa condition glorifiée, à laquelle nous participerons tous, nous aussi, un jour. Mais c'est toujours quelque chose dans l'avenir. Le peu que la Bible nous révèle sur cette gloire, ou le peu que nous sommes capables de comprendre, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre encore, tourne autour de trois faits. La résurrection, transformation de notre propre corps, l'immortalité et la communion avec Dieu. Et 1 Thessaloniciens 4, verset 14 dit, « Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. De même, nous croyons aussi que Dieu ramènera à la vie avec Jésus ceux qui seront morts en croyant à lui. » Et voilà notre espérance, notre but dans ce monde. Et cette résurrection aura lieu selon le plan de Dieu au dernier jour de l'histoire. Et donc c'est pourquoi nous avons comme titre ici dans cette partie du séminaire, la fin des temps. Je termine avec un petit passage en Jean 6, verset 40. C'est Jésus qui parle. « Telle est en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. »
Depuis son ascension, Jésus règne sur toutes choses. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre et dans les cieux. Il règne donc sur la mort aussi. Mais il permet qu'elle subsiste encore pour le moment. Mais le jour vient, il nous l'a promis, quand il dira « Assez !» et la tombe rendra toutes ses victimes. 1 Corinthiens 15, 54. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ce jour-là, il n'y aura plus de cimetière, plus de cortège funèbre, plus de famille ou d'amis endeuillés, plus d'adieux déchirants, plus de mort. Mais il ne faut pas confondre cette résurrection avec une simple réanimation du corps qui a été enseveli, ni avec une désincarnation. Le corps de la résurrection sera bien un corps, mais un corps adapté. Adapté au monde spirituel dans lequel il doit vivre, dans le monde spirituel de Dieu. 1 Corinthiens 15, 42, 44, 49 et 50. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Voici ce que j'affirme, frères. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Ce sera donc un corps immortel et transformé. À la résurrection, le peuple de Dieu connaîtra la vie éternelle, non seulement dans sa durée, mais aussi dans sa qualité. 1 Thessaloniciens 4, 17, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons, comme nous en avions parlé dans la première séance, nous serons rentrés chez nous. Voilà le dernier mot de la Bible sur la rédemption de l'humanité. Nous serons rentrés chez nous.
Le dernier jour verra non seulement le dernier acte de la rédemption, qui est notre propre résurrection, la résurrection en nous-mêmes, ou ce que j'appelle la résurrection générale, mais aussi verra le dernier acte officiel de Jésus en tant que Messie. Et quel serait ce dernier acte? Donc, ça serait le jugement. C'est lui qui va agir en tant que juge. Nous avons parlé de ça dimanche passé, si vous vous rappelez de ça. Acte 17, verset 31. En effet, il a en effet fixé un jour, il jugera le monde entier avec justice par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous, en ramenant cet homme de la mort à la vie. Dans l'Antiquité royale, le roi exerçait la fonction de juge suprême, et ainsi rendre la justice était une prérogative royale. C'était son droit de le faire. Écoutez cette citation. Proclamez le bien haut, justice sera faite. Un jour viendra où toute iniquité commise sur la terre recevra sa juste rétribution. Pour tous les petits enfants abandonnés dans un orphelinat pleurant de solitude, pour toutes les épouses qui travaillent dur et se retrouvent étendues, inconscientes, sous les coups de pied et poignes d'un ivrogne, pour tous les jeunes torturés gémissant sous l'esclavage des trafiquants de drogue, pour toutes les jeunes filles intimidées et exploitées qui viennent vivre dans la honte et le déshonneur, pour tous les pauvres exploités, pour toutes les victimes de la calomnie, pour tous les enfants illégitimes et élevés dans l'infamie, pour tout cela, un jour viendra où justice leur sera rendue. Les coupables paieront. Alors tous ceux qui ont été volés, trompés, violés, exploités, intimidés, poussés aux abois, toutes les victimes, regarderont les méchants et les coupables comparaître devant le tribunal de Dieu.
Romains chapitre 2, versets 5, 6, 8, 9 et 11. Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité, se soumettent à l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le juif d'abord et pour le grec, car en Dieu, il n'y a pas de partialité. Une autre question qu'on pose souvent au sujet de Dieu, c'est est-ce que l'enfer existe? Quand on lit la Bible, on n'a pas à la lire bien loin avant de voir que la Bible enseigne, Jésus a enseigné l'existence de l'enfer. Ça n'est pas l'enfer de la piété populeuse du Moyen-Âge, avec les diablotins, avec les queues en fourchette, qui vous sortent d'un chaudron d'eau bouillante pour vous jeter dans un autre chaudron d'huile bouillante. Ça n'est pas ça. La Bible, franchement, ne donne pas beaucoup de renseignements sur cet endroit, mais assez pour qu'on n'ait pas envie d'y aller. Écoutez 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9. Ils subiront comme punition une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse. Le mot traduit « ruine » dans ce passage signifie littéralement « corruption ». On pourrait dire que Dieu laissera les réprouver, les condamner tout seuls, entre eux, croupis dans leur pourriture, la pourriture morale qu'ils auront choisie. Voilà la vraie définition de l'enfer, c'est d'être éloigné définitivement de Dieu et tout ce dont Dieu est la source. Il faut croire à la grâce sans limite de Dieu. Il faut aussi croire qu'un homme ou une femme peut rater le sens de sa vie et rejeter cette grâce de Dieu. Et arriver jusqu'au bout de sa vie et toujours rejeter Dieu et passer par la mort tout en rejetant Dieu. Cette personne attirera, si je peux dire, attirera dans l'enfer. Non pas parce que Dieu a choisi de le mettre là, ou de la mettre là, mais parce qu'elle-même a choisi d'y être. C'est un refus qui a continué toute une vie et qui n'a été que confirmé à la fin de sa vie. La résurrection et le jugement sont les derniers actes officiels de Jésus en tant que roi messianique. En effet, ce règne messianique inauguré à l'ascension de Jésus quand il est monté au ciel n'est qu'un aspect particulier du règne éternel et permanent de Dieu. Vous avez un schéma qui montre cela. Ce règne médiateur du Messie n'est pas destiné à durer pour toujours. Il doit prendre fin au jour de la résurrection. 1 Corinthiens 15, 25, 26, 28. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait vaincu tous les ennemis et lui ait mis sous ses pieds. Et l'ennemi lui ait mis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu règnera parfaitement sur tout. La mission messianique de Jésus s'achève donc par la résurrection et le jugement. Le pouvoir que Dieu lui a confié en tant que médiateur, en ce jour-là, n'aura plus raison d'être. Jésus continuera à régner éternellement, non plus en vertu d'une autorité déléguée par le Père, mais en vertu de sa propre divinité, non plus en tant que Messie, mais en tant que Dieu. Ainsi, Dieu régnera parfaitement sur tout.
Bon, je crois qu'en haut de la page 37, vous avez un schéma, n'est-ce pas? C'est 37. 32, excusez-moi, mal tapé, mal vu. 32. Bon, là, Nous allons prendre ce schéma et avec l'aide de trois textes de l'apôtre Paul, nous allons résumer ce que nous avons vu jusqu'ici. Okay? Le premier texte nous rappelle l'origine et le terme final du dessein de Dieu. C'est 1 Corinthiens 2, le verset 7. J'annonce la sagesse secrète de Dieu cachée aux âmes et que Dieu avait déjà choisie pour notre gloire avant que le monde existe. Et le plan secret de l'histoire est né dans la sagesse divine. C'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui a décidé cela en regardant en avant. Lui qui est omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout. Et même donc avant la création du monde. Et cela aboutit à la gloire éternelle dans le monde de Dieu qui est le ciel. Deuxième texte, Colossiens 1, versets 25 à 28. Je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la tâche que Dieu m'a chargé d'accomplir pour vous. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message, c'est-à-dire le secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant à ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu me faire connaître le plan secret, si riche et si magnifique, qui est le sien en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous, et il vous donne l'assurance que vous aurez pour part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout homme. Bon, avant la venue du Christ, le plan de Dieu avait été tenu caché, dit Paul ici. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Mais je dirais relativement caché, car l'Esprit de Christ était déjà actif dans l'Ancien Testament pour révéler d'une manière voilée, par les préfigurations, mais aussi par les prophètes, des choses plus ou moins obscures de ce que c'est ce dessein de Dieu. Mais maintenant, nous vivons les temps où ce plan cesse d'être secret. Ce n'est plus secret, parce que c'est révélé. Grâce à l'enseignement des apôtres, qui étaient les instruments, ou je dirais les porte-paroles de l'Esprit Saint, le dessein de Dieu est pleinement manifesté. La gloire est offerte à tous les hommes, et c'est, j'aime bien cette phrase, à quiconque croit. Ça me rappelle un verset qui n'est pas là dans le texte, que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc en attendant la réalisation de cette gloire, c'est quelque chose qui est toujours dans le futur. L'Église, dont nous sommes membres, a toujours la mission, non pas de perpétuer une religion, mais de rendre témoignage au dessein de Dieu et d'appeler les hommes à y avoir part. Donc nous avons aussi une mission en tant qu'Église. Bon, le dernier texte forme la conclusion de l'apôtre Paul aux Romains. C'est en Romains chapitre 16, versets 25-26. Louons Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi selon la bonne nouvelle que j'annonce. Le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ est selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché trop longtemps dans le passé. Mais maintenant, il a été mis en pleine lumière par des livres des prophètes, conformément à l'ordre du Dieu éternel. Il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient et obéissent. Et il y a cette phrase « mais maintenant mise en lumière »,« mais maintenant mise en lumière », qui, pour moi, c'est la phrase clé de ce texte ici. L'Église se réjouit de vivre à l'époque où le nom de Jésus-Christ est désormais révélé comme la clé de l'histoire humaine et de notre destinée. Et on se pose la question, qui autre que pouvons-nous prendre comme représentant que, à part le Christ? Est-ce que ça peut être Bouddha? Est-ce que ça peut être Mahomet? Est-ce que ça peut être Socrate? Est-ce que ça peut être Jean-Paul Sartre? Voudrions-nous que notre destinée soit définie d'après la leur? Peut-être que c'est une question à se poser aussi. Et puis il y a ce dernier passage que je vais vous lire, acte 4, verset 12. Le salut ne s'obtient qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus. Le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Il n'y a pas d'autre.
Pour parler d'entrer dans le dessein de Dieu, parlons de notre identité personnelle à chacun d'entre nous. Imaginez que vous avez déjà toujours vécu sur une île déserte sans voir un autre être humain. Toute votre vie, vous n'avez jamais vu un autre être humain. Et un jour, vous entendez une voix venant du ciel et qui dit « Qui es-tu ?» Vous n'avez pas la moindre idée de qui vous êtes, alors vous ne savez pas répondre à cette question. Et puis un beau jour, vous voyez un navire qui se pointe à l'horizon, qui vient sur l'île, et il y a un homme qui descend de ce bateau, qui vient vers vous sur la plage et qui dit « Enfin, mon enfant perdu !» Et vous dites « Mais qui êtes-vous, monsieur ?» Et ce monsieur vous dit « Mais je suis Jean Dupont, et vous êtes mon fils Dominique. » Alors, la voix vient du ciel encore une fois, « Qui es-tu ?» Et vous dites « Je suis Dominique Dupont, fils de Jean Dupont. » Petite histoire pour illustrer que notre identité est toujours par rapport à notre relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Nous avons besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour nous aider à nous identifier nous-mêmes. Et c'est pour ça que nous nous accrochons à pratiquement n'importe quoi pour définir notre identité, à nos diplômes ou à notre profession, notre nationalité, nos talents, nos dons, notre cadre social, etc. Tout ça, c'est des choses par lesquelles nous nous définissons. Seulement, le problème avec toutes ces choses, c'est qu'elles elles ne sont pas permanentes. Elles peuvent changer du jour au lendemain, souvent sans crier gare. Bien. Alors, il n'y a qu'une relation, une seule. Comme Alain vient de la lire dans ce passage qui disait qu'il n'y a pas d'autre sauveur pour nous. Il n'y a qu'une relation à partir de laquelle nous pouvons établir notre identité sans risque qu'elle ait à changer. C'est-à-dire, nous pouvons établir, savoir qui nous sommes de manière inchangeable et immuable. Et c'est en étant dans cette relation que l'apôtre Paul appelle être en Christ. En Christ. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Traduction de la TOB. Il s'agit donc d'une nouvelle identité reçue en vertu du fait d'être en Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Parce qu'aujourd'hui, enfin, ce langage sonne un peu bizarre. Être en. Comment est-ce qu'on peut être en quelqu'un? Aujourd'hui, on dirait plutôt être solidaire avec quelqu'un, ou être uni avec quelqu'un, ou être une seule personne avec quelqu'un, ou assimilé à quelqu'un. Comment donc nous assimiler donc au Christ? Comment nous intégrer dans le dessein de Dieu? Cette question nous amène au sujet du baptême.
Bon, le mot baptême, dans ses différentes déclinaisons, bonjour, apparaît une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Entrez. Bon, nous sommes, je ne sais pas à quelle page maintenant.
33,
d'accord. Et nous sommes en train d'aborder la question de baptême dans le dessein de Dieu. Je dis, ce mot baptême, dans ses différentes formes, se trouve à peu près une centaine de fois dans les textes du Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas quelque chose négligeable. Mais pour vous donner une mesure de comparaison, l'autre rite associé à l'Église, qui est la Sainte-Cène ou l'Eucharistie, ou le repas du Seigneur sous ses noms différents, n'est mentionné qu'une dizaine de fois dans les textes du Nouveau Testament. Donc, ces actes, le baptême et la Sainte-Cène, sont les deux, sont tous les deux intimement liés au dessein de Dieu. Et si lié, si bien qu'il constitue peut-être les seuls rites qu'on peut appeler proprement chrétiens. Vous avez des autres pratiques de piété universelle, telles que la prière, le chant, le jeûne, l'aumône et tout ça, mais ces deux choses-là sont vraiment uniquement chrétiens. On a parce que ces autres choses existent dans d'autres religions. Mais c'est le baptême qui nous intéresse ici à cause de sa place qu'il occupe dans le processus de la conversion. Charles a dit dans le début que nous allons voir les choses plus personnelles aujourd'hui, parce que les deux dernières fois, on a vu un peu l'histoire, si vous voulez. Maintenant, nous sommes là pour parler des choses qui nous touchent chacun de nous personnellement. Bon, on va commencer par une définition. Le verbe grec des textes originaux du Nouveau Testament, prononcé baptizo, avec le P, baptizo, n'a pas été traduit dans vos versions françaises, mais plutôt transposé, tout comme le mot Christos, par exemple, le mot Christos en grec qui nous donne en français Christ. Si on l'avait traduit, on aurait dit loin, L'OINT, ou celui qui est loin. Mais le verbe baptizo a fini par prendre pour nous le sens d'administrer le rite du baptême, une définition qui ne nous aide pas ou n'avance pas beaucoup. Bon, en réalité, le mot baptizo a une signification bien précise dans le grec, ce qui est marqué dans votre cahier là, je crois. Il signifie plonger, immerger, tremper, faire disparaître quelque chose ou quelqu'un sous l'eau. Bon, en français, quand on parle de baptiser un bateau, qu'est-ce qu'on fait? On prend une bouteille de champagne et on asperge, si vous voulez, le bateau avec un peu de champagne. Donc, c'est là l'idée. Mais, quand les textes grecs profanes, et je parle ici de grec profane, pas de la Bible, mais des textes comme Socrate, etc., ou le grec classique, parlent de bateaux baptisés, ils se réfèrent à des bateaux qui ont coulé, qui ont été plongés ou submergés sous l'eau. Donc voilà le texte ou le sens précis et original de ce mot pour les Grecs. Chouraki, un juif qui est traducteur de la Bible, qui a traduit aussi le Nouveau Testament, nous rend un grand service en traduisant ce mot grec « immergé » ou « immersion ». Au lieu de dire « baptême » ou « baptisé », il dit carrément « immersion » ou « immergé ». Et Chouraki, il va même jusqu'à inventer un mot plutôt, pour nous donner à Jean-Baptiste son vrai nom, son vrai titre, parce qu'il l'appelle Jean l'immergeur, parce que le mot immergeur n'existe pas dans le dictionnaire à ma connaissance au moins. Donc il a inventé ce mot, pour, au lieu de dire Jean-Baptiste, il dit Jean l'immergeur. Pourquoi? Parce que Jean plongeait les gens sous l'eau. Donc, et je finis par dire Jean le plongeur, parce qu'on aurait pu dire cela, n'est-ce pas, mais ça aurait donné un autre sens dans le français.
Alors, l'acte auquel nous avons affaire quand nous parlons de baptême dans le Nouveau Testament est donc, quant à sa forme, une immersion totale dans de l'eau. Ça n'était qu'en 251 qu'a eu lieu le premier baptême pour les malades, qui était baptême entre guillemets, qui était une aspersion. Et ce n'était qu'en 1275 que le synode d'Angers a admis officiellement l'aspersion en France. Le sens d'immersion appliqué à ce mot baptême est admis par tous les biblistes, exégètes et lexicologues de toutes les confessions chrétiennes, et confirmé aussi par le témoignage archéologique, parce qu'il existe dans bien des lieux de culte anciens ce qu'on appelle des immergeoires, des endroits où on pouvait immerger, plonger quelqu'un complètement. Telle est donc la forme du baptême chrétien, la tradition la plus ancienne, celle qui remonte jusqu'à Jésus-Christ, le fait de plonger quelqu'un sous l'eau pour le baptiser. Les deux premiers textes à considérer sous ce sujet viennent des évangiles et ont trait à l'immersion pratiquée en Israël par Jean et ensuite et en même temps par Jésus qui était venu juste après. Ce baptême de Jean visait surtout les Juifs. Il était donné en préparation au règne messianique qui devait venir tout de suite après. Par conséquent, il devait, après l'ascension, céder la place au baptême chrétien, proprement dit. En attendant, ce baptême johannique nous donne les premières indications du rôle que le rite chrétien doit jouer dans le dessein de Dieu.
Bon, Charles a mentionné deux textes, et le premier se trouve en Luc, chapitre 7, versets 29 et 30. Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes ont annulé pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. Un grand nombre de juifs sont allés vers Jean, et parmi les pécheurs les plus notoires. Quand je dis les pécheurs les plus notoires, je parle ici des publicains, qui étaient des personnes, des juifs, qui travaillaient au compte de Rome, comme douaniers ou collecteurs d'impôts. Ils étaient pour les Juifs les collabos de l'époque, donc des personnes méprisées. Et Jésus dit, c'est Luc en chapitre 7, dit que eux, ou parmi ces gens-là, qu'on va voir dans un autre texte, pardon, ils ont accepté le baptême de Jean. Bon, comment sont-ils entrés, ces gens, dans le dessein de Dieu? C'est peut-être ça la question qu'il faut poser. Bon, ils ont fait deux choses. Premièrement, ils ont écouté Jean. C'est-à-dire, ils ont écouté ce qu'il avait à dire, ils se sont laissés instruire par lui et ils ont cru le message qu'il proclamait. Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous, car le règne du Messie est proche. Je résume son message. Mais deuxièmement, la deuxième chose qu'ils ont fait pour entrer dans le dessein de Dieu, c'est qu'ils se sont fait immerger par Jean. Jean les a baptisés. Bon, les pharisiens et les enseignants religieux, par contre, comme dit le texte qu'on vient de lire, se sont exclus du dessein de Dieu. Et la question qu'on encore se pose, comment? Bon, encore pour eux, ils ont fait deux choses. Premièrement, ils n'ont pas écouté Jean. Il y avait des centaines, je dirais des milliers de personnes qui sont allées voir Jean. Bon, déjà, c'était un personnage assez unique, assez intéressant, mais il y en avait parmi ces gens-là, des pharisiens, les gens instruits qui sont allés, mais pas comme les autres, ils n'ont pas écouté. Au contraire, ils l'ont pris pour un fou et ont rejeté son message divin. Matthieu 21, verset 32. En effet, Jean est venu à vous dans le chemin de la justice et vous ne l'avez pas cru. Collecteurs d'impôts et prostituées, au contraire, l'ont cru. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas dans la suite davantage repenti pour le croire. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont refusé d'être immergés par Jean dans l'eau.
Deuxième texte des évangiles parlant du baptême, c'est la conversation entre Jésus et Nicodème, chef pharisien et enseignant des Écritures. Jean chapitre 3, 3 à 5 et 9 à 11. En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas engendré d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il être engendré quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et être engendré? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est pas engendré d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème répondit et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es maître en Israël, cependant tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, et cependant, vous n'accueillez pas notre témoignage. En entendant parler d'être engendré d'en haut, Nicodème a voulu un supplément d'explication. Et il a été sommé par Jésus, comme le sont les chrétiens d'ailleurs plus tard, d'être engendré d'eau et de l'esprit. Maintenant, être engendré d'eau pour Nicodème ne pouvait se faire que par le baptême de Jean, parce que le baptême chrétien n'avait pas encore été donné. Or, le baptême de Jean était un baptême de repentance. Ceci, Nicodème, ainsi que tout le judaïsme officiel, ils avaient tous refusé ce baptême de repentance. Ils avaient tous refusé de reconnaître que Jean était envoyé par Dieu et qu'il devait être suivi par le Messie. Concernant l'Esprit, nous apprenons plus tard, dans le texte du Nouveau Testament, que quand le baptême chrétien sera, quand il est donné, c'est à ce moment-là que nous devons l'habitation de Dieu par l'Esprit, Actes 2, 38, Éphésiens 2, 22, ce qui nous renouvelle et nous régénère, Tite, chapitre 3, verset 5. Mais encore, ici, Jésus parle avant l'instauration du baptême chrétien. Donc, pour Nicodème, être engendré de l'Esprit, ça doit vouloir dire autre chose. Cela se réfère sans doute au fait que l'Esprit engendre par les paroles qu'il donne et qui, quand elles sont acceptées, ces paroles, nous amènent, ou l'amènent lui, Nicodème en tout cas, dans ce contexte, dans le dessein de Dieu. Selon Jésus à Nicodème, alors, est engendré de l'Esprit le Juif qui se laisse instruire par l'Esprit en acceptant la prédication de ses envoyés, c'est-à-dire Jean Baptiste, Jean l'Immergeur, et le Messie qui devait suivre, qui a suivi Jésus lui-même. De la même manière, Dieu engendre des enfants aujourd'hui, par l'Évangile, par la parole. déposée comme une semence dans le cœur des hommes et des femmes. 1 Pierre 1, 23-24. Vous avez été engendrés à nouveau par une semence non pas corruptible mais incorruptible, par la parole de Dieu vivante et permanente. Vous avez été engendrés par la parole de Dieu. Or cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Jacques 1, 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité. Maintenant, les deux exigences pour Nicodème sont donc la foi dans le dessein de Dieu révélé par l'Esprit et le baptême de repentance.
Nous passons maintenant au baptême chrétien, parce qu'on vient de parler de Jean, maintenant, de baptême chrétien. Aux apôtres, le Christ ressuscité, c'était quelques jours après sa résurrection, mais avant son ascension, il a confié une mission. On trouve cette mission qu'il a confiée en Marc 16, versets 15 et 16. Allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bon, nous retrouvons ici les deux conditions auxquelles des hommes et les femmes peuvent s'intégrer dans le dessein de Dieu et s'approprier de la rédemption est accomplie par le Messie. Donc, quelles sont ces deux conditions dans ces textes? Bon, la première, c'est la foi. Il faut croire. La foi dans l'Évangile inspiré par l'Esprit et puis proclamé par les apôtres. Et le deuxième, c'est l'immersion. Jésus a dit, allez dans le monde, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est le mot baptême ou l'immersion dont on a parlé tout à l'heure. Bon, quelque chose d'intéressant, Charles, je crois qu'il a fait allusion à cela tout à l'heure, mais dans les dernières 50 années, des théologiens catholiques et protestants, on se sont demandé si, d'après les textes du Nouveau Testament, il est permis de baptiser les enfants qui sont incapables d'une foi personnelle, parce que selon ce que Jésus avait dit à ses apôtres, la foi précède le baptême. Et il est vrai qu'aucun argument dans le Nouveau Testament justifie cette tradition de baptiser les enfants, les tout-petits, ceux qui n'ont pas la possibilité de croire ou qui ne peuvent pas croire. Et la conclusion de l'expert du texte du Nouveau Testament, le catholique Louis Pirot, il soutient ma propre conviction. Il dit ceci en ce qui concerne la pratique du baptême dont parle le Nouveau Testament. Il s'agit évidemment ici d'adultes auxquels seul peut être demandé sous l'influence de la grâce une adhésion raisonnée avant de recevoir le baptême. Et c'est mon expérience aussi personnelle qu'en parlant avec soit les prêtres catholiques ou les personnes qui donnent le catéchisme, qui ont une certaine connaissance de ces choses, que c'est exactement cela, la compréhension aussi des textes. Et en effet, la pratique maintenant dans les églises, c'est d'aller plutôt vers l'immersion et aussi que l'immersion des adultes, pas ou plus plutôt des enfants. Ça se pratique toujours les enfants, mais moins qu'avant. Bon. Pour avoir un aperçu de comment les apôtres remplissaient la mission que le Christ leur avait confiée, nous allons maintenant regarder deux des nombreux récits dans le livre des Actes des apôtres, qui c'est justement ça, les Actes des apôtres, ce que les apôtres ont accompli pendant leur mission. Et le premier a eu lieu le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection du Christ. En effet, le mot Pente, ça veut dire 50, ok, en grec. Bon, l'apôtre Pierre, il prêche l'évangile aux Juifs de Jérusalem. Et Luc, celui qui a écrit le livre des Actes, il termine le récit de son sermon comme ceci, sur Actes 2, versets 36 à 39, et puis le verset 41. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles, il demandait à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car c'est à vous qu'est destinée la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et puis le verset 41, ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux.
Le baptême marque l'acceptation par les évangélisés de l'enseignement apostolique sur le dessein de Dieu. Mais il ne s'agit pas d'un simple rite d'initiation. Il se passe des choses. Par la foi et le baptême, le baptisé ou l'évangélisé qui a décidé donc d'accepter cette évangélisation, cet évangile, il rentre effectivement dans le dessein de Dieu. Le résultat, c'est que ses péchés sont pardonnés, selon Actes 2, 38. Il reçoit aussi le Saint-Esprit, selon Actes 2, 38 également. Il reçoit donc une nouvelle vision de la réalité, une nouvelle mentalité, instruite par la connaissance de Dieu. Le nouveau converti sera renouvelé et transformé continuellement au fur et à mesure qu'il se laisse habiter par cette sagesse divine qui est mise en lui. Puis dans le Nouveau Testament, le deuxième exemple, en tout cas des actes que nous prenons, concerne une conversion non d'un juif formé par l'Ancien Testament, mais d'un païen. C'est le cas du geôlier de Philippe. Alors là, la façon de procéder des évangélistes n'est pas différente que ce qu'ils ont fait avec des juifs. Paul et Silas, en l'occurrence, sont les évangélistes. Et ils ne changent pas leur méthode. Actes 16, 30 à 33, puis les ayant fait sortir, il dit, le geôlier, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il a posé la question, « Que dois-je faire ?» Encore cette question qui a été posée aussi dans chapitre 2 des Actes. Et la réponse comporte, dans le livre des Actes, dans tous les exemples qu'on peut trouver, toujours les mêmes deux éléments. La foi en un Jésus crucifié, enseveli, ressuscité et élevé vers Dieu, et aussi le baptême. Dans le Nouveau Testament, et c'est intéressant de noter, très intéressant à mon avis, le baptême suit toujours, et presque toujours immédiatement, la foi. C'est-à-dire, dans cette situation de Actes chapitre 16, Paul et Silas ont immergé le geôlier tout de suite, sans exiger un temps supplémentaire d'épreuve ou de probation ou de préparation morale. Dans le Nouveau Testament, le baptême n'est pas lié à la sanctification personnelle, il n'est pas lié à la pratique de la piété. Il est lié à l'acceptation du salut, il est lié à ce que la Bible appelle la justification. Quand on décide d'accepter l'Évangile, on doit être baptisé, on ne doit pas forcer ces personnes à attendre un tel ou tel temps pour qu'ils soient prêts. S'ils savent ce qu'il faut faire pour obéir à Dieu dans ce commandement, eh bien, il faut respecter leur demande d'être baptisé.
Bon, une des formules liturgiques les plus courantes dans le monde chrétien, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais cette forme, si on peut le dire, ne se trouve qu'une fois dans toute la Bible. Et il s'agit d'une parole de Jésus sur le baptême. Et la formule lui donne, pour moi, une clé pour comprendre le sens profond de cet acte. C'est dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, qui est un texte parallèle avec Marc 16, 15 et 16 que nous avons vu tout à l'heure, qui est là où le Christ envoie ses apôtres en mission. Il dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » En grec, la formule « au nom de » ça affirme la propriété ou exprime une prise de possession. Quand le nom d'une personne est prononcé sur un objet, cet objet passe sous la domination de cette personne. Déposer de l'argent au nom d'une personne ou de quelqu'un, c'est de le faire porter à son compte. Acheter un esclave, par exemple, au nom de Flavius. Disons, nous sommes à l'époque romaine, on achète un esclave au nom de Flavius, c'est faire de cet esclave la propriété de Flavius. Ou encore, au temps romain, un légionnaire qui prête un serment de fidélité au nom de César devient l'homme de César et se voue au service exclusif de l'empereur. Donc, par le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptisé est porté au compte de Dieu, si on peut le dire. Il est introduit dans son projet de salut, ou comme Charles a dit, il est entré dans le dessein de Dieu, ce que Dieu a tout prévu dès avant la création du monde. À mon avis, l'énumération des trois personnes divines vise leur collaboration au dessein divin. Le Père qui l'a conçu avant la fondation du monde, le Fils qui l'a porté son achèvement par sa mort, sa résurrection et son ascension, et le Saint-Esprit qui l'a révélé d'abord d'une manière énigmatique dans l'Ancien Testament et ensuite pleinement dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament. Par la foi et le baptême, les baptisés deviennent premièrement fils ou héritiers de Dieu. Ils appartiennent maintenant à Dieu et sont ses descendants ou ses héritiers, si on peut le dire. Galates 3, versets 26-27. Car tous vous êtes par la foi fils de Dieu en Jésus-Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu liés par la foi à son propre Fils unique, c'est parce que nous avons été baptisés en son Fils. Notre foi commence donc par un élan vers le Christ, et cet élan se traduit par recevoir le baptême.
Deuxièmement, c'est par la foi et le baptême qu'on s'identifie au triple acte par lequel Jésus a réalisé le dessein de Dieu. D'abord, sa mort. Vous avez le passage de Romains 6, 3 et 5. Ou bien, ignorez-vous que nous tous baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été totalement unis, assimilés à sa mort. Ensuite, il y a sa résurrection. Colossiens 2, 12, 13. Et vous voyez ce mouvement, cette mort, cet ensevelissement et cette résurrection dans l'action du baptême. Sa résurrection, Colossiens 2, 12, 13, en effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été enterrés avec le Christ. Et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené de la mort à la vie. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Et finalement, il y a son ascension. Éphésiens 2, 5, 6. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. En Christ, notre destinée est devenue réalité. Lui, il est déjà passé par la mort, par la résurrection, il est entré dans la gloire. Nous attendons ces choses dans notre vie. Mais nous sommes sûrs d'y parvenir, puisque lui y est parvenu, et puisque notre destinée est désormais liée à la sienne. Par la foi dans le baptême, notre destinée s'est réalisée en signe, en symbole, en image, une mort, un ensevelissement, une résurrection, une montée vers la gloire. Mais le jour viendra où ceci se réalisera en vrai, au terme, à la fin de l'histoire.
Bon, troisièmement, le baptême, ou le baptisé plutôt, reçoivent par la foi et le baptême le don du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Pierre a promis. Il a dit que c'était une promesse. En Actes chapitre 2, verset 38. Tite 3, verset 3 à 7. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, odieux, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les âmes ont été manifestés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération. Là, on a le baptême. Et puis, le renouveau du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà encore cette attente dont nous avons parlé tellement les deux dernières fois. Ainsi, le baptême nous introduit dans la sphère de l'influence de l'Esprit, celui qui a révélé le dessein de Dieu. Et on peut dire que le baptême nous ouvre à toute la sagesse, à toute l'intelligence de l'Esprit. Il y a là une influence qui agit en nous et pour nous aider à nous transformer dans notre vie. Et cette vérité de l'Esprit n'est pas stérile. Elle n'est pas seulement un ensemble de données inertes, des informations écrites sur noir et blanc dans un livre. Au contraire, cette vérité que l'Esprit nous révèle est vivifiante et énergique et devient pour nous le principe actif d'un renouveau. Et ce mot « renouveau » désigne chez Paul, l'apôtre, un changement de l'intelligence qui va amener une transformation morale progressive. Donc il y a quelque chose qui va changer en nous grâce à cette intervention, grâce à ce don du Saint-Esprit qui est en nous. Et cela veut dire que le baptisé se conformera petit à petit au monde spirituel où il a été introduit et dans lequel il va vivre et évoluer, parce qu'il n'y a pas, comme je dis, stérilité, mais plutôt croissance. Chacun doit avancer vers une certaine maturité spirituelle, et cela avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Nous revenons maintenant à cette idée d'être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'une immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon des péchés est ainsi le rite chrétien fondamental, ou l'acte par lequel chaque individu entre effectivement dans le dessein de Dieu, comme Charles l'a dit tout à l'heure. C'est le lieu ou le moment de rencontre de la grâce divine et la misère humaine. Dieu, de droite, si on peut dire, il est intervenu dans l'histoire, il a pris l'initiative. Il est venu vers nous. Mais maintenant, on rencontre à ce moment-là la grâce de notre misère humaine. Le baptême est le point de convergence des mystères du plan divin et de leur explication, parce que là, les choses deviennent plus claires. Le baptême biblique n'est pas donc quelque chose à prendre à la légère. Tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui, ça va être plus personnel, parce que ce n'est pas quelque chose d'insignifiant. C'est quelque chose d'important, puisque on parle de Jésus, on parle des apôtres, on parle de l'Esprit de la révélée. Mais tout cela reste l'être mort. Tant que nous n'avons pas dans la foi reçu cette mission. Nous devons bien réfléchir, car le baptême vient de la volonté de Dieu. Et si nous n'avons pas par la foi été baptisés, la question et l'indication de Actes chapitre 22, 16 devient important pour nous. Et voilà, je vais commencer par avec cela. Actes 16. Pourquoi donc hésiteras-tu? Hésiteras-tu? Alors, reçois le baptême de l'indication des péchés. Avez-vous cas? C'est bon. On s'arrête là. Cinquième séance, ça va parler pas, c'est quelques minutes. Mais voilà, c'est une vraie question parce que c'est pour commencer. Il y avait pas mal de questions. Il y a remarques.